Good Morning Business, le débrief de la matinale.
Il était temps qu'on reprenne le débrief car les débats se sont poursuivis pendant la publicité sur la French Tech. Est-ce que on continue à trop valoriser certains acteurs de la French Tech? Est-ce que Pigment vaut vraiment $1 milliard? On dit tout ici, on est entre nous avec Carole Juge-Lewellyn, Stéphanie Hospital et Thibaut Prébet. On va écouter pour commencer Maya Noël, la directrice générale de France Digital, qui nous expliquait qu'on était en train de séparer le bon grain de l'ivraie. On écoute.
Je pense que les bons projets continuent à être très bien financés. Il reste de l'argent et là on est en train de redécoller. Donc le début de l'année n'est pas forcément évident. Ça traduit aussi la même chose que la fin de l'année dernière. Mm-hmm. Néanmoins, ça montre que si on a un beau projet, on peut continuer à être financé. Et donc aujourd'hui, on a Pigment. Hier, il y avait aussi Blablacar qui a annoncé une levée de 100 millions. Mm-hmm. Donc il y a quand même beaucoup de signaux positifs qui montrent qu'on est capable toujours d'encourager nos champions.
Ce qui énerve Carole, c'est l'effet moutonnier des fonds. C'est-à-dire que... Non mais Carole, c'est pas un secret. On le voit sur Pigment, tous les fonds qui étaient au capital veulent remettre au pot, ils veulent y aller, ils les poussent même en fait à faire une levée. Tout le monde veut aller sur les mêmes dossiers.
Bah, c'est un peu le problème des fonds d'investissement. C'est qu'il y a un effet un peu moutonnier. Personne ne veut passer à côté du bon deal. Tous les fonds d'investissement vous disent tout le temps, moi j'ai raté machin, moi j'ai raté Cézanne, moi j'ai raté un truc. Et donc en fait après, quand il y a un deal, et Pigment est une très belle boîte, très beau succès. Vraiment, il n'y a pas
combien
de débat.
Combien de chiffre d'affaires?
Je ne sais pas. Ce n'est pas ma boîte.
Nous non plus, on ne sait pas.
Mais ce que je veux dire, c'est que néanmoins, cet effet moutonnier, en fait, il faut apprendre, quoi. Enfin, les mecs qui ont perdu je ne sais combien de millions, de milliards dans Klarna, quand ils ont fait des levées, jusqu'à faire un downturn 7 fois moins cher parce qu'ils avaient survalorisé l'asset, bah, en fait... Apprenez. Et le problème, c'est que les fonds ont la mémoire extrêmement courte. Et paradoxalement, ils demandent aux entrepreneurs d'avoir la mémoire très longue et très résilient. Et puis nous, on doit pouvoir s'adapter. Donc un jour, faire de l'hypercroissance. Le lendemain, il faut faire de la bottom line. Et puis après, il faut refaire de l'hypercroissance. Et puis en fait, non, mais il faut arrêter de lever des fonds. Non, mais il faut.
La parole est à la défense. Un fonds d'investissement. Stéphanie Hospital.
Alors, avec Carole, on se connaît effectivement très bien. On est ensemble à France Digital. Et en fait, on partage exactement le même avis. C'est que nous, chez OneRactem, on investit très tôt. Donc on investi dans des sociétés en amorçage et on est toujours le fonds lead. C'est-à-dire qu'on prend toujours les risques. Et moi, je regarde beaucoup de fonds venir en disant « Mais nous, on veut venir. Mais en fait, on va être suiveur. » Et je dis aux entrepreneurs « Mais pourquoi tu prends un fonds suiveur ? Au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir un fonds qui s'engage. » Et c'est comme ça que, en fait, on se retrouve effectivement avec...
Sauf que les fonds
suiveurs,
ils mettent beaucoup d'argent. C'est quand même difficile de
pas
être tenté.
Non, mais pas sur des petits tickets.
Au démarrage. En fait, le démarrage, c'est le plus difficile. C'est va trouver une société au moment où il y a 2-3 fondateurs quand Carole a démarré et puis on y va.
C'est pire que tout, quoi.
Et là il n'y a personne en fait, c'est ça que
vous
voulez
dire? Il n'y a personne. Et nous quand on regarde chez OneRactime, le nombre de projets qu'on a financés où les entrepreneurs derrière nous disent mais si tu n'avais pas été là au début, même encore sur Hive, qui est quand même un projet qu'on vient d'annoncer la semaine dernière, qui est assez massif de réseau de partage de fichiers de puissance de calcul entre ordinateurs sur des capacités non utilisées. Mais en fait, on se rend compte que maintenant que la levée de fonds est annoncée, tous les fonds vont vouloir venir. Mais même si le projet est encore très très ambitieux et a tous les critères, il y a une espèce d'attentisme. Et puis à un moment, on ne sait pas pourquoi, ça s'emballe. Et puis on a des sociétés qui déclenchent ce qu'on appelle dans notre jargon le FOMO, le Fear of Missing Out. Et en fait, bien investir, c'est investir à contre-courant.
Mais vous, c'est bon pour vous, parce que c'est tous ces gens qui arrivent, et du coup, ça valorise votre part, vous êtes contente.
Alors, oui, si... on arrive à sortir, et c'est pas toujours le cas. Et en fait, bien investir, c'est rentrer au bon moment, c'est rentrer à la bonne valorisation, dans la très bonne société, mais c'est aussi être capable d'en sortir à un moment, et c'est là où on voit le sang-froid des investisseurs.
Pas aller dans les modes, hein, parce que là on est toujours dans les modes, la climate tech, les logiciels.
C'est que ça, il y a que des effets de mode. Il y a un an et demi, on parlait que du Web 3. Là, c'est l'intelligence artificielle. Alors je vais pas rentrer dans le débat.
Attention,
combien de temps
ça pourrait bien marcher quand même.
Mais je sais, tu protèges, tu diras tout le temps l'IA, c'est l'avenir.
Tu protèges l'IA, c'est
un partenaire ailleurs. Défenseur de l'IA, mais à la fin, il y a un effet de mode. Il faut être réaliste et il faut aussi penser les pépites entre guillemets de demain, les licornes de demain, elles ont commencé avec des petits tickets et donc il faut ne pas oublier, se dire c'est ces boîtes en amorçage qu'il faut aider, quoi.
Thibaut.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que l'économie, il faut le rappeler, la finance sont des phénomènes autoréalisateurs par création. Si vous pensez qu'une boîte est bien et qu'elle va cartonner, bah, tout le monde achète et ça fait monter le cours, elle peut lever des fonds sur des valorisations plus élevées, etc. Si vous pensez qu'une boîte va pas bien, personne veut la financer, les gens ont peur de pas être livrés, ils achètent ses produits et la boîte peut faire faillite juste parce qu'elle a une mauvaise image. Donc, on est par essence dans des choses autoréalisatrices qui peuvent parfois suffire à amener les choses loin. Si vous prenez un exemple aujourd'hui, tout le monde veut des ETF parce que ça a marché, même si on va finir par acheter des choses qui sont beaucoup trop chères. Et paradoxalement, on le voit quand on a beaucoup d'investisseurs qui nous disent on veut revenir sur les petites et moyennes valeurs qui sont extraordinairement décotées au milieu du capital investissement et des grandes capis, et disent tous on ne veut pas être les premiers. Donc on voit qu'on est dans ce phénomène. Tout le monde a envie d'y aller quand tout le monde commence à y aller. Donc c'est très présent dans notre économie. C'est un fonctionnement avec lequel il faut faire, mais on est dans une économie qui est structurellement autoréalisatrice, qui s'alimente que par des flux aujourd'hui, en tout cas en grande partie, puisque la notion de valeur, quand certains marchés peuvent se payer 40 fois et d'autres 7 fois, est moins présente que simplement le flux. Et donc, il faut faire avec, même si c'est vrai que on se dit que le temps long est avec nous, mais le temps long, c'est parfois long.
Allez, justement, on va parler encore d'investissement, mais comme actionnaire, est-ce que les salariés ont vocation à être les actionnaires de leurs entreprises? Ils sont de moins en moins nombreux. Il y a eu cette étude en Europe. Aujourd'hui, c'est 3,01% du capital qui est détenu par des salariés. Ça fait 441 milliards d'euros. 10 ans plus tôt, c'était plus important. Et puis en France, c'est pareil. On a perdu, alors là, quasiment presque 10 points dans l'entreprise, notamment française. Cette diminution de l'actionnariat salarié, peut-être avec vous, Stéphanie, est-ce que c'est dommage, ou est-ce que en fait un salarié doit avoir un salaire et non pas des actions?
Non, bien sûr qu'un salarié doit être intéressé à la réussite de l'entreprise. Alors, dans les grands groupes, c'est vrai qu'il y a eu certainement eu des déceptions par rapport aux cours de bourse et aux attentes qui sont créées. Maintenant, on voit bien dans l'environnement des start-up et de la tech, l'incitation et à avoir des collaborateurs qui ont des parts de l'entreprise fait partie du modèle de la tech. Et on vient récemment de lancer, merci pour ça, une réforme du régime des actions pour les salariés qui permet d'avoir une plus grande décote et donc d'être encore plus incitatif pour les collaborateurs sur le régime des BSPCE à avoir des actions sur lesquelles un jour ils pourraient capturer de la valeur. Parce que là aussi, si c'est pour avoir des actions qui finalement ne vont jamais rien donner, ça crée plus de frustration que d'incitation à la performance.
Ça fait partie aujourd'hui des demandes des salariés, d'avoir des BSPCE, des salariés de la tech.
Alors, non, Stéphanie, le salaire déjà.
Oui, bah non.
Je pense que la base quand même, c'est d'avoir un niveau de salaire. Et donc, nous, on est très vigilants en tant que fonds d'investissement qu'on mette en regard des BSCPE, des niveaux de salaire qui soient des niveaux de salaire incitatifs et avec notamment des logiques de bonus. Mais en même temps, la participation à la création de valeur long terme de l'entreprise est essentielle pour retenir les collaborateurs et pour attirer aussi des talents. Mais il faut que ça soit équilibré.
Alors, donc chez Juno, on a toujours donné des BSPCE à tout le monde. Je n'ai pas inventé le truc, j'ai complètement volé l'idée à Jean-Charles de Samuelian de Alan, qui avait fait au lancement d'Alan une grille hyper précise. Et j'ai dit, c'est vachement intelligent, je vais faire la même chose. Donc, bravo à lui et merci pour cette inspiration. Et donc, ce qui fait que tout le monde a des BSPCE, ça reste un véhicule que les salariés, mais même les gens en général, même en start-up, ne comprennent pas forcément très bien. Donc, tous les ans, je fais un petit cours, c'est quoi un BSPCE, comment ça fonctionne. Et la problématique, c'est très lié à la valo de la boîte. C'est tout le problème, on en revient toujours à la problématique de valo. C'est-à-dire que vous faites une levée de fonds, vous réémettez, entre guillemets, à chaque levée de fonds, un petit capital de BSPCE pour donner aux nouveaux salariés, mais sauf que vous leur donnez des actions qui valent déjà très cher. C'est-à-dire que quand vous faites une levée valorisée 1 milliard, vous donnez des actions, à l'instant où vous faites votre levée 1 milliard, elles valent 1 milliard. Donc en gros, le salarié, il va toucher de l'argent quand on vendra la société 2 milliards. Vous vendez la société 1 milliard, il n'en touchera pas. Vous vendez la société 100 millions, il n'en touchera pas. Donc il y a cette problématique qu'on n'a pas, par exemple, avec ce qu'on appelle l'actionnariat salarial traditionnel. Vous êtes chez L'Oréal, vous touchez un peu d'argent ou beaucoup d'argent en fonction des résultats tous les ans. On en a parlé quand Total a sorti les résultats. Je crois que c'était genre 3000 ou 3005 l'an dernier, c'était beaucoup. Et c'est vrai que c'est un véhicule qui est... Alors, l'État, fiscalement, surprotège ce véhicule, et c'est très très bien, parce que franchement, c'est vraiment super. Néanmoins, ça n'est plus du tout. Il y a 7 ans, les gens se disaient, comprenaient peut-être pas trop, ils se disaient, waouh, ça peut faire des trucs dingues, les startups. Franchement, aujourd'hui, en entretien de recrutement, on pose la question une fois sur deux, c'est pas du tout ça qui fait signer les gens, c'est encore moins ça qui les fait rester. À la fin de la fin, les gens, surtout dans une période inflationniste dans laquelle on est, ils ont besoin de sous. Donc en fait, il faut juste bien payer les gens.
Justement, quand même, depuis une semaine, la nouvelle décote d'illiquidité pour tous les nouveaux plans d'attribution de BSPCE, où on pourra donner une décote de 50 à 90% justement sur la valeur de l'entreprise pour tenir compte d'éléments d'illiquidité, donc du fait que les actions n'aient pas les mêmes classes ou qu'on ait peut-être pas la possibilité d'en sortir.
On va élargir un peu quand même, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont des entreprises cotées et qui ne sont pas des start-up, oui. Les grandes entreprises. L'objectif du gouvernement, Thibault, c'est d'arriver à 10% d'actionnariat salarié dans les entreprises cotées françaises. Est-ce que, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que ça peut motiver les salariés ou au contraire, c'est un mélange des genres?
Je pense qu'il y a des sujets qui sont sociétaux, qui ne dépendent pas forcément de l'État. Toute la partie start-up, French Tech, c'est hyper intéressant, mais à l'échelle de l'emploi, c'est pas colossal. Bah oui. La réalité, c'est quand vous êtes dans un énorme groupe, les plus gros employeurs français, c'est des boîtes comme Carrefour. L'action Carrefour, elle fait pas rêver ses salariés. Je veux dire, quand on a une start-up, on peut se dire, je peux faire x10. Quand vous êtes dans des boîtes très matures où le cours bouge pas beaucoup, c'est pas la même incitation. Donc, il y a deux points à avoir en tête. Le premier, c'est que on a un bad buzz autour de l'action en France d'un point de vue sociétal. On dit que c'est mal, le capital. Donc ça n'existe pas dans d'autres pays. Donc ça joue quand même un peu sur la motivation. Ouais. Et le deuxième point qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que l'économie mondiale des pays développés a basculé d'une économie de chômage de masse liée à une démographie très forte à un plein emploi lié à une démographie très basse. Et toutes les boîtes cherchent à recruter, ils n'y arrivent pas. Dans ce cadre-là, quand les salariés parfois changent de boulot tous les ans ou tous les deux ans et où ils n'ont pas de difficultés, ce besoin d'être ancré dans l'entreprise, d'y croire à 5, 10, 20 ans comme quand on faisait toute sa carrière, il est moins vrai. Ouais. Dans des startups où il y a l'upside, on voit cette idée, on a envie de se projeter, c'est vrai. Dans des très grands groupes où parfois on reste un an et on part, l'idée d'être actionnaire ne revêt pas cette valeur-là. Donc, dans des économies où de toute façon la chute démographique a continué, où la trajectoire du chômage va rester à la baisse, l'idée qu'on va recréer ce lien avec ces sociétés dans les toutes petites valeurs, ça paraît très clair. Dans les grands groupes cotés, c'est honnêtement pas complètement évident.
Et c'est là où je suis pas totalement d'accord avec toi, parce que c'est dans les grands groupes cotés, je pense, qu'il y a le moins de turnover. Moi, quand je regarde, par rapport à des petites boîtes, quand je regarde des gens qui sont chez des L'Oréal, chez des Carrefour, il y a des gens qui ont mon âge, ça fait 10 ans qu'ils y sont, quoi.
Qu'ils sont très bien payés. Souvent, c'est ça aussi.
Mais quand tu regardes les grilles salariales, c'est pas toujours le cas. Des fois, t'es surpris de
un
savoir
petit mot
combien
de,
sont payés
des
gens,
retraites. Hein.
Oui, justement. Stéphanie, personne ne veut en parler des retraites. Je vois très bien ce que tu fais.
Moi, justement, parce que pour faire le pont entre l'actionnariat salarié et les retraites, on a un enjeu de réforme des retraite et d'arriver à une retraite par capitalisation.
Ah, comme je ne suis pas sûr que ce soit la prochaine étape du gouvernement. C'est plutôt d'augmenter l'âge de départ.
Mais en même temps, si on arrivait à faire ça, on recréerait ce lien entre l'économie, l'actionnariat et puis ce que j'ai à la fin quand je pars à la retraite. Mmh. Et c'est ce qui a marché aux États-Unis. Et en plus, c'est un formidable vecteur pour financer des sociétés tech.
Ça marche aux États-Unis. Alors, jusqu'au jour où tu as une très grosse crise comme les subprimes qui t'envoient des gens de 70 ans t'envelopper tes produits alimentaires à la sortie de ta caisse.
Parce qu'ils n'ont plus de retraite.
Pas obligé de faire 100%. Justement, Thibault a très envie de parler des retraites et du rapport du corps. Le corps qui va revoir sa manière de calculer avec les paramètres, pas mettre les mêmes choses dedans. Et à la fin, ce que ça va nous dire, c'est qu'il faut refaire une réforme des retraites. C'est à peu près là où on va, Thibault.
Exactement. Le problème, c'est moi j'aime bien la démographie, ça change jamais, donc c'est facile, on peut reparler, il n'y a pas besoin de réviser le matin à 6h30 quand on reçoit un SMS, donc je suis très friand. La réalité est que on est parti dans une société qui pendant 40 ans a pensé que la démographie était un truc sinusoïdal, c'est-à-dire que ça baissait et puis que ça remonterait un jour. Et on se rend compte que ça n'existe pas, ça baisse partout. Sur le G20, il y a un pays qui en un an a vu sa démographie monter. C'est quand même pas beaucoup. Hein.
C'est lequel?
C'était l'Allemagne, mais qui partait de que dalle et qui est toujours très en dessous. Ouais. Sur deux ans, il y en a zéro.
La démographie grâce à l'immigration en Allemagne, hein, parce que le
taux ils étaient tellement bas qu'à un moment donné, quand on est passé à 20 à 30, d'accord, c'est pas la fête.
Mais le problème, c'est qu'en plus de ça, on vieillit et en plus, on est moins productif. Hein. C'est ce que va dire le corps. Hein.
Ouais, alors ça, c'est après la productivité. Alors, on n'est pas moins productif. La productivité monte moins vite que prévu, ce qui n'est pas la même chose qu'être moins productif, ce qui serait négatif. Là, on est plutôt dans la dérivée. Le point est juste de dire, on s'est dit que ça allait s'améliorer. Si ça ne s'améliore pas, ça veut dire que les ratios de dépendance, c'est-à-dire le nombre de retraités sur les actifs, vont continuer à se dégrader très fortement. Donc ça veut dire que toutes les simulations qu'on faisait ont été comme ça. Pendant longtemps, on a dit la Chine va rester à 1,4 milliard. Et puis il y a deux ans, on a dit en fait, ils vont être 400 millions parce que si on fait un enfant pendant deux générations, au bout d'un moment, la population est divisée par 4. C'est des maths. Mais tout le monde disait non, ça va revenir à la normale. Et maintenant, on l'accepte. Ça veut dire qu'on a un problème de retraite. Mmh. On a un problème de retraite qui est lié au fait qu'il y aura trop de gens à aider, et on a un problème d'activité, qui est que le retraité, plus il est nombreux, moins il est payé, moins il consomme, donc sur l'activité, c'est un problème. Alors ça crée des opportunités, peut-être que sur les couches seniors, par exemple, on va avoir un très beau marché, la réalité est que notre système de retraite, sur le financement de la retraite qui va durer et s'accentuer parce qu'on se ment à chaque fois en disant qu'on va stabiliser les écarts entre retraités et actifs, ça ne va pas arriver. Et attention, on a une chance en France quand même, c'est que dans des économies de services, c'est plus facile d'augmenter l'âge de départ, alors que dans des économies très industrielles, c'est infaisable.
C'est ce que va dire le corps tout à l'heure.
Merci à tous les trois.